Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 25 janvier 1515, le sacre de François Ier. Le 1er janvier 1515, François Ier devient roi de France au décès de Louis XII. Le 18 janvier, le jeune roi et sa mère, Louise de Savoie, dont il est très proche, suivis de la cour, à l'exception de la reine Claude, alors enceinte, quittent Paris. Le cortège arrive à Reims 6 jours plus tard. L'archevêque Robert de Lenoncourt accueille le souverain sur le parvis de la cathédrale et lui fait baiser les évangiles. Le roi assiste aux vêpres avant de rejoindre la résidence archiépiscopale. Dans la soirée, il revient discrètement dans la cathédrale pour procéder à des oraisons, à l'instar d'un chevalier à la veille de son adoubement. À l'aube du 25 janvier, il est procédé à l'habillement du roi. François Ier enfile une chemise de toile ouverte devant et derrière pour l'onction, puis se couvre d'une tunique de soie blanche également fendue et d'une robe de damas blanc fourré. Peu avant 9h, il est conduit en la cathédrale par les évêques de Laon et de Beauvais, suivi des chanoines de Reims portant croix, cierge et encensoir qui chantent en procession. Installé dans le chœur, le souverain est entouré des 6 pères ecclésiastiques et des 6 pères laïcs qui procèdent au couronnement. Dans un premier temps, François Ier est assis face à l'archevêque, dos à la nef. Il attend l'arrivée de la sainte ampoule qui, selon la tradition, contient l'huile céleste portée par une colombe à Saint-Rémy le jour du baptême de Clovis. Elle est employée pour le sacre depuis 869 quand l'archevêque Hicmar l'a utilisée pour oindre le roi de Lotharingie, Charles le Chauve. Avant l'onction, le roi promet de défendre les privilèges canoniques, les lois et la justice de l'Église. Puis, la main sur les évangiles, il s'engage à préserver la vie paisible du peuple chrétien, à empêcher les rapines et les iniquités, à faire respecter l'équité et la miséricorde dans ses jugements et à exterminer les hérétiques. Après avoir baisé les évangiles, François Ier est mené devant l'autel où il s'agenouille. Là sont réunis les ornements royaux, la grande couronne, l'épée, les bottines, les éperons d'or, l'anneau et le sceptre, la main de justice, la robe et le manteau sommé de fleurs de lys d'or. Le grand chambellan chausse le souverain de ses bottines, tandis que le duc d'Alençon, doyen des pères laïcs, attache les éperons qui sont aussitôt retirés. L'archevêque bénit l'épée royale, appelée joyeuse, qu'il ceinte au roi, tout en l'invitant à défendre l'Église et à détruire les ennemis du christianisme. Extraite de son fourreau, l'épée est embrassée par le souverain, puis déposée sur l'autel. L'archevêque rend l'épée nue au roi agenouillé. Il la confie au connétable qui la brandit durant le restant de la cérémonie. Vers 10h, survient l'instant crucial de l'onction. À l'aide d'une aiguille d'or, l'archevêque prélève une goutte du baume de la sainte ampoule. Il la dépose sur la patène avant de la mélanger aux crèmes avec son pouce. Les évêques et le chœur entonnent le Kyrie Eleison. Les litanies achevées, François Ier s'agenouille et le consécrateur procède à l'onction sur sept parties du corps royal. Le sommet de la tête, la poitrine, entre les épaules, sur chaque épaule et au pli des bras. Ce faisant, il prononce la formule latine signifiant « Je t'oins, roi, avec l'huile sanctifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce à quoi l'assistance répond « Amen ». Le roi revêt alors la tunique, la robe et le grand manteau du sacre. Une ultime onction est réalisée sur la paume des mains, l'archevêque précisant qu'elle est accomplie sur le modèle de celle reçue par David du prophète Samuel. Il est maintenant 11 heures. Oint, le souverain reçoit l'anneau, le sceptre et la main de justice. Les 6 pères laïcs s'assoient autour du roi avec les 6 pères ecclésiastiques. L'archevêque de Reims, les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Châlons et Noyon, ils procèdent au couronnement. Le consécrateur conduit François Ier à son trône qui est placé sur une plateforme. Une fois le souverain assis, l'archevêque l'embrasse et proclame « Vivat Rex in aeternum ». Les autres pères reprennent cette acclamation, les trompettes et les orgues se mettent à sonner, le peuple s'écrie à son tour « Vive le roi !» Le Te Deum est ensuite entonné pour rendre grâce à Dieu et l'archevêque célèbre la messe. François Ier est invité à baiser de nouveau les évangiles, puis au moment de l'offertoire, il reçoit un broc d'argent rempli de vin contenant 13 pièces d'or qu'il dépose en offrande. La messe achevée, le roi est mené par ses pairs jusqu'au maître-autel où pour la première fois il communie sous les 2 espèces, le pain et le vin. À 13 heures, précédé du connétable qui brandit toujours l'épée royale, François Ier sort de la cathédrale et gagne le palais archi-épiscopal pour s'y restaurer. Il s'installe au centre de la table, les pères s'assoient à ses côtés selon une disposition analogue à la Sainte Cène. Après avoir quitté Reims, François Ier se rend à Corbeny, modeste localité de la vallée de l'Aisne dans le diocèse de Laon, pour prier sur le tombeau de Saint Marcoul, guérisseur des écrouelles. Ce pèlerinage lui confère un pouvoir thaumaturge. Le roi se prête encore à une seconde cérémonie de couronnement en la basilique royale de Saint-Denis avant d'entrer solennellement dans Paris le 15 février 1515. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour, 3 livres qui, comme chaque semaine, a été préparé par Emmanuel. C'est Claude François que nous écoutons avec un titre de 1977, probablement l'un de ses plus grands succès. Dans l'album Magnolia Forever, il chantait Alexandrie, Alexandra. Thank you.
sur les filles, parc sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse. Sur les filles et parque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, ou Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Sirène du port d'Alexandrie chante encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur le Fil, parc sur le Nil. Oh, Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Allez, danse, oui, danse.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, c'est maintenant le temps de la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Nous commençons par La traversée des temps, c'est le tome 5, Les deux royaumes d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. La traversée des temps, c'est avant tout un défi que s'est lancé l'auteur Éric Emmanuel Schmitt. Raconter l'histoire de l'humanité sous une forme romanesque, rien que cela. Et c'est une véritable réussite. Après nous avoir transportés à la fin du néolithique et à la période du déluge, le paradis perdu, en Mésopotamie, devant la tour de Babel du tyran Nemrod, la porte du ciel, en Égypte, à la période de Moïse, soleil sombre, et en Grèce, au IVe siècle avant notre ère, la lumière du bonheur, la traversée du temps nous conduit cette fois-ci en Gaule. De la cueillette du gui, un élixir de jouvence 100% gaulois, à une assemblée de druides à l'ombre des grands chênes, le fabuleux monde celtique n'en finit pas d'émerveiller l'immortel Noam lorsqu'il débarque en Gaule. Mais bientôt, l'irruption d'envahisseurs d'un genre nouveau, les Romains, vient bouleverser l'équilibre des forces. Du célèbre Spartacus, figure tragique de révolte et d'espérance qui défie la République romaine, à l'empereur Auguste et son épouse Livie et ses successeurs, nouveaux maîtres de Rome, au prix de morts suspectes et de crimes irrésolus, Noam assiste perplexe à l'apparition d'une concentration de pouvoir sans limite. Très loin de là, à Jérusalem, un certain Jésus tient un tout autre discours que celui de Rome. Prônant l'égalité entre tous les hommes, sa parole ouvre un horizon radicalement neuf et suscite un espoir infini. Deux royaumes se dessinent, l'un terrestre et hégémonique, l'autre céleste et accessible à tous. Entre ces deux conceptions du monde, lequel Noam va-t-il choisir ? La traversée des temps, c'est le tome 5, intitulé « Les deux royaumes ». C'est signé Éric Emmanuel Schmitt et c'est publié aux éditions Albin Michel. Un rêve d'amour, Marie Dagout et Franz Liszt, de Catherine Hermariveil aux éditions Intervalle. Voici l'histoire de la brève et intense passion de Marie Dagout et Franz Liszt. Elle défraie la chronique des salons parisiens des années 1830, au mépris des convenances et du « quand dira-t-on ». Marie Dagout décide de vivre au grand jour la folle passion qui la lie au génie, Franz Liszt. Entre Paris, Venise, Milan, Florence, Genève et Nohant, elle sacrifie tout à l'amour de cet homme qui lui-même sacrifie tout à son art et à son ascension personnelle. Évidemment, la haute société ne voit pas d'un très bon œil cette femme trop libre pour son temps, dont le salon accueille de nombreux républicains, Jules Grévy, Sadi Carnot, entre autres, et qui soutient ouvertement la première femme à devenir bachelière en France, Julie Victoire d'Aubier. Deux des enfants nés de cette passion connaissent aussi des destins singuliers. Cosima épouse Richard Wagner et crée bientôt le festival de Bayreuth, tandis que Blandine épouse l'un des hommes politiques les plus singuliers de la seconde moitié du XIXe siècle en France, Émile Ollivier. En évoquant cette passion entre un musicien ambitieux et une aristocrate en rupture de ban, l'auteur nous entraîne à la rencontre des grandes figures de l'époque, Georges Sand, Sainte-Beuve, Balzac, Lamartine, Théophile Gautier, Alexandre Dumas. Un rêve d'amour, Marie Dagout et Franz Liszt, c'est signé Catherine Hermariveil et c'est publié aux éditions Intervalle. Et nous terminons cette chronique littéraire par 22 Masbury Road, famille, mémoire et quête d'une terre promise de Rachel Cockrell aux éditions Quai Voltaire. Au départ, ce livre devait raconter l'histoire de la grand-mère et de la tante de l'auteur qui ont élevé ensemble leurs enfants dans une énorme maison édouardienne au nord de Londres dans les années 1940. Et finalement, c'est une autre histoire qui en découle, celle de Theodor Herzl et Israël Zangwill, au premier congrès sioniste qui se tient à Bâle en 1897 et du méconnu mouvement de Galveston, expérience de transplantation de milliers de juifs d'Europe dans un port du Texas. Ainsi, sur la piste familiale se dessine la naissance du sionisme, l'invention de l'Amérique à l'heure du melting pot et les balbutiements du théâtre d'avant-garde new-yorkais. C'est une rétrospective passionnante. 22 Masbury Road, famille, mémoire et quête d'une terre promise, c'est signé Rachel Cockrell, c'est publié aux éditions Quai Voltaire. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisé. C'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Claude François. Belinda, c'était en 1972 sur l'album Le lundi au soleil.
Il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. Fait mon cœur et qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blond, Belinda. Je devrais en avoir l'habitude et l'attendre comme je l'ai fait souvent. J'entends crier ma solitude.